Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Anne-Laure Barbier, fondatrice de Good Cube Paris.
Bonjour Bastien.
Qu'on va avoir la chance de découvrir aujourd'hui. Je suis avec elle, tu m'as invité dans les labos de ta pâtisserie, 88 rue de Didot à Paris, dans le 14e arrondissement. Donc comme d'habitude dans les Step Story, on va venir retracer l'histoire de ton entreprise, donc qui est un peu particulière par rapport aux entrepreneurs que j'interviewe, mais qui est tout aussi intéressante. Et c'est justement ton profil un peu différent qui m'intéresse, comment tu es arrivé jusqu'à cette activité, parce qu'on va voir que ce n'est pas vraiment ce à quoi tu te destinais professionnellement depuis plusieurs années. Donc c'est ça qui est intéressant. Et bah écoute, pour commencer à parler de toi, moi je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, ce que tu as fait avant, etc.
Ok, très bien. Alors... J'ai commencé par une école de commerce à Paris, un parcours assez classique avec une spécialisation en finance audit. Donc voilà, j'ai commencé ensuite parler dans un cabinet d'audit pendant 3 ans. Bon, c'est cabinet d'audit, okay. C'est pas très fun, mais voilà, faut le faire. Ensuite, contrôle de gestion. Dans une boîte de sport, ça c'était très très sympa. Et puis un jour j'ai eu un déclic et je me suis dit j'ai un peu de temps cette année, pourquoi pas passer mon CAP pâtisserie.
Parce que c'était une de tes passions, la pâtisserie, peut-être.
Ouais, c'était une de mes passions. J'adore manger.
Okay.
Et puis j'avais envie d'en faire un peu plus sérieusement et puis prendre des cours et si je prends des cours autant avoir le CAP à la fin de l'année quoi.
Ok, donc on n'a pas oublié de le présenter, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais avec Good Cube Paris ?
Ah oui, pardon. du coup, je suis fondatrice de la marque. Je fais aussi la production. Donc, j'ai créé les recettes avec une nutritionniste.
Donc, c'est des pâtisseries dédiées aux sportifs,
c'est ça, pâtisserie pour sportifs. Les recettes ont été développées avec une nutritionniste sportive,
okay.
Pour qu'elles soient adaptées au mieux aux besoins des sportifs. Elles sont bio et elles sont faites artisanalement à Paris par moi-même.
D'accord. Ok. Et alors, tu as dit que tu étais dans la finance avant, tu as eu plein d'emplois différents dans la finance. Là, aujourd'hui, tu fais de la pâtisserie. Est-ce que... Pour revenir un peu sur ton parcours d'entrepreneur, est-ce que c'est ton premier projet ? Est-ce que c'est la première fois que tu te lances comme ça, donc dans quelque chose qui te prend du temps, qui te prend des finances ? Est-ce que c'est le premier projet que tu tentes en fait ? Est-ce que c'est le premier projet ? Tu as tout le temps été dans le salariat, etc. Ou est-ce que peut-être en parallèle, tu avais des choses ?
Alors, c'est mon premier projet. Okay. Premier projet, ça fait un moment que j'y pense. Je me suis vraiment lancée il y a 9 mois parce que j'ai eu de la chance d'être licenciée économiquement.
D'accord.
Donc, j'ai profité de cette opportunité pour me lancer, pour enfin donner vie à ce projet en fait que j'avais dans la tête. Et donc, voilà.
Alors, ok, top. Alors, maintenant, est-ce que tu peux me présenter vraiment Good Cube Paris ? Donc, c'est de la pâtisserie dédiée aux sportifs. Alors, il y a 4 gammes différentes avec au moins 5 produits dans les 4 gammes différentes. Est-ce que tu peux me présenter les 4 gammes ? L'intérêt de chaque gamme pour les différents types de sportifs en fonction de l'objectif qu'ils recherchent, dans la performance, dans les sèches. Moi, en sport, je ne suis pas le plus calé du tout, donc c'est justement pour ça que tu vas pouvoir expliquer. Écoute, vas-y, je te laisse présenter.
Alors, effectivement, j'ai développé 4 gammes parce que on n'a pas les mêmes objectifs et donc il n'y a pas les mêmes besoins nutritionnels. Entre quelqu'un qui va faire une prise de masse ou quelqu'un qui, au contraire, va faire une sèche, donc essayer de perdre un maximum de gras, et puis quelqu'un qui est dans l'endurance, donc qui est dans la performance sur le long terme, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc j'ai fait 4 gammes. Et dans chacune de ces gammes, il y a des produits qui sont spécialisés pour... il y a des collations pour la journée, et il y a aussi des produits pour la récupération. Après une séance, on a vraiment des besoins spécifiques. Donc ça aide à une meilleure récupération.
Est-ce que tu peux me donner le nom des gammes ?
Alors, il y a prise de masse, sèche, fit life et endurance.
Et donc du coup, tu m'as dit que ces gammes, elles ont été développées avec une nutritionniste ?
Oui,
du coup.
Tout à fait, avec une nutritionniste sportive.
Alors toi, quand tu as voulu... Alors déjà, pour revenir un peu, parce que ça t'intéresse vraiment l'histoire d'entreprise, déjà, à quel moment tu t'es dit je vais faire 4 gammes, pas une de plus ? Et comment tu es allé démarcher ta nutritionniste ? voilà, pour trouver une nutritionniste, pour faire tes gammes, pour pas faire n'importe quoi, pour être sûr de ce que tu vas produire.
Alors, les 4 gammes, ça, je le savais assez tôt, parce qu'en fait, je fais moi-même du sport. Et donc j'aime la pâtisserie. Je trouvais pas de produits qui m'intéressent, enfin qui étaient assez bons niveau goût et nutritionnellement. Du coup, je me suis dit bah il faut faire quelque chose. Un coach sportif m'a présenté cette nutritionniste qui est spécialisée dans le sport et qui en pratique à haut niveau, etc. Et elle m'a confirmé effectivement que c'était un peu les 4 types de sportifs qu'il y avait. Et c'était vraiment enfin, entre ces 4-là, il y avait vraiment des différences nutritionnelles qui étaient notables.
C'est les 4 piliers.
C'est ça.
Et donc, voilà. La nutritionniste, tu l'as trouvée, bon, pas avec le réseau, mais tu l'as trouvée voilà, sur une recommandation de ton coach.
C'est ça.
Ok. Bon, j'ai vu que dans les 4 gammes, donc les 4 gammes, elles ont des noms traditionnels, voilà, prise de masse, sèche, etc. Mais que les produits, ils ont des noms assez marrants, assez français, par exemple. Je ne sais pas dans quelle gamme c'est, mais moi, j'ai vu le Zizou.
Le Zizou, c'est dans l'endurance.
Ok.
En fait, j'ai essayé de donner des noms un peu auxquels on peut vite s'identifier et savoir dans quelle gamme on est. Dans la prise de masse, il y a le Chabal.
Ok.
Voilà, c'est assez représentatif. Et histoire qu'on puisse s'identifier, en fait, assez sportif. Et voilà, et puis ça donnait un petit côté sympa.
Alors. Donc tu as commencé à présenter Good Cube Paris en donnant un peu les valeurs. Donc c'est des produits qui sont à destination des sportifs qui ont des besoins différents, les 4 gros piliers on va dire des besoins dans le sport. Maintenant avec la marque tu as des valeurs spéciales, c'est que tous les produits, alors il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien, tout ce qui est un peu immonde aujourd'hui dans la nutrition, surtout c'est du made in France à 100% avec des produits locaux, c'est ça. Et donc tout ça c'est est-ce que tu peux me donner un peu la liste de toutes les valeurs que tu défends mais surtout que tu soutiens dans ce projet en fait?
Alors,
à travers les produits
en fait le constat en fait c'est que de base les produits pour sportifs sont hyper transformés, hyper chimiques, on n'arrive pas à lire la liste des ingrédients, elle est trop longue et incompréhensible. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de simple et de bon. Donc le défi, ça a été de ne pas utiliser de conservateur parce que les produits se conservent un mois. Donc sans conservateur, ça a été un vrai défi. Je me source que auprès de fournisseurs bio. Donc ça également, c'était un défi parce que tout n'est pas disponible en bio. Et puis, on est aussi éco-responsable. C'est-à-dire que tous nos emballages, tous les packagings sont recyclés, recyclables et même compostables. Les emballages individuels, on dirait du plastique, mais en fait, c'est du papier transparent qui est compostable. Voilà, c'était vraiment un défi et c'était vraiment important.
Et donc aujourd'hui, pour faire des aliments, alors moi, j'y connais rien, mais aujourd'hui, pour faire des aliments comme ça, sans additifs, etc., est-ce que c'est vraiment...
C'est compliqué, parce que je voulais vraiment que ça tienne un mois. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests de conservation.
Ok.
Il y a eu beaucoup de moisi.
D'accord.
Okay. Et donc, il fallait essayer de nouveaux ingrédients, changer un pourcentage d'ingrédients, changer des températures de cuisson, essayer de trouver des alternatives.
Donc, en fait, toi, ton product market fit, il est un peu là-dessus. Il est un peu sur... Comment je vais réussir, en gardant ma recette que je veux avoir, à faire des produits qui tiennent le temps que je désire qu'ils tiennent, etc. Toi, c'est là-dessus que tu es allé chercher un peu ton calibrage pour trouver tes produits finaux.
Ça a été le plus dur. Et sachant qu'à chaque fois que je changeais un ingrédient, il fallait que les valeurs nutritionnelles cadrent avec ce qu'avait défini la nutritionniste. Et je ne peux pas les changer comme ça.
Ça doit être une recette un peu bien calibrée, bien proportionnée. Alors, maintenant, une question avant d'en venir un peu comment tu as validé le besoin autour de toi. Est-ce que tu t'es... Alors, avant de te poser la question de est-ce que mes produits intéressent vraiment quelqu'un, les 4 gammes, etc., à destination des 4 cibles différentes. Bon, toi qui étais dans la finance, je pense que, même sans t'y connaître forcément sur le document que je vais t'introduire là, je pense que tu n'étais pas non plus... comment je peux dire, que tu y connaissais un petit peu, c'est le business plan en fait. Comment toi, tu t'es assuré de la viabilité de ton projet, combien ça allait te coûter, Combien de temps tu allais réussir à mettre ça en place, combien d'argent il allait falloir sortir in fine pour avoir quelque chose, etc. etc. Comment toi tu as fait ce business plan là? Bon, tu n'étais pas dans l'entrepreneuriat, mais dans la finance, je pense que tu t'y connaissais un petit peu là-dessus. Comment tu as fait ce pas en fait?
Alors, oui, j'étais dans la finance, mais en même temps, je ne me suis pas vraiment penchée sur ce point-là au début.
Ok.
J'étais surtout sur les recettes, que ce soit bon. Essayer d'avoir déjà un produit viable, en fait. Parce que si j'avais pas de produit, ça servait à rien de continuer. Mmh. Donc, je me suis d'abord concentrée sur le produit.
Et ce qu'il faut faire, en soi, quelle que soit l'entreprise, il faut se concentrer sur le produit.
Bah, je savais pas trop par quel bout commencer et je me suis dit, bon, bah, il faut un produit. Mmh. Et ensuite, j'ai vu la partie financière, combien ça allait me coûter, parce que bah, voilà, j'avais mes recettes, donc je savais que tel ingrédient coûtait tant. Je me suis renseignée sur louer un labo parce qu'on ne peut pas faire chez soi pour des règles d'hygiène. Donc, il faut trouver un labo, ce qui a été le plus compliqué à trouver.
Il y a quand même du coup des contraintes législatives. Tu ne peux pas faire comme l'histoire par exemple de Michel Augustin qui faisait leur premier gâteau dans leur four chez eux, etc. Tu ne peux pas lancer une activité comme ça.
Ça, c'est une belle histoire.
Non, c'est une belle histoire et une belle success story.
C'est une belle histoire. Mais en vrai, on ne peut pas pâtisser chez soi.
D'accord.
C'est interdit. Donc il faut un laboratoire. Trouver un laboratoire, c'est un parcours du combattant. Et au final, ça a été le point le plus critique dans l'aventure, quoi.
Ok. Vas-y.
Et ensuite, le business plan, je l'ai fait. Je l'ai commencé. À vrai dire, je l'ai pas fini.
Après, le but, c'est pas. Alors, si c'est pour toi-même, en fait, il y a le business plan et plusieurs objectifs. Soit c'est pour soi-même, pour se rassurer sur la viabilité ou sur le coût du projet, ou alors si c'est pour le présenter à un investisseur ou une banque. Là, par contre, il faut le finir. Mais sinon, voilà, c'est juste pour se rassurer et être sûr de son activité. Il n'y a pas besoin forcément de le finir. Voilà.
Oui, parce qu'en plus, je n'avais pas besoin de banque parce qu'au final, l'investissement n'était pas énorme. J'ai eu besoin d'argent pour acheter des ingrédients pour faire mes tests, que je faisais chez moi quand même, les tests. Ensuite, louer un labo, je le loue et là je commence à le payer tous les mois, donc ça va être avec les ventes. En fait, j'ai pas eu d'investissement de base.
Tu as pu un peu tout financer en financement interne, t'as pas eu besoin de financement externe.
Ça c'est
un point positif en tout cas toi. Alors maintenant qu'on. Alors, j'avais failli oublier. Comment tu as validé un peu ton idée des 4 gammes, voilà, à qui tu allais commencer à vendre ça, est-ce que les gens en avaient vraiment besoin, etc. Voilà, ça, c'est intéressant.
Alors, je me suis mise au sport, sérieusement, parce que quand j'ai passé mon CAP, je me suis fait mal au dos, je me suis blessée, donc j'ai été alitée, etc. pendant plusieurs mois. Et donc, il a fallu que je me mette au sport pour me remuscler.
Dans la phase de rééducation.
Et avec un coach, parce qu'il fallait être accompagné. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert tout ce milieu-là, du sport, des sèches, des prises de masse.
Okay.
Et puis, j'aimais toujours la pâtisserie et je me suis rendu compte que j'atteignais pas mes objectifs en mangeant de la pâtisserie et en faisant du sport. Parce qu'au final, 70% du travail d'un sportif, ça passe par la nourriture. Donc, j'ai cherché des produits bons, en goût, bon nutritionnellement, avec des bons produits dedans, j'en ai pas trouvé. Et là, j'ai commencé du coup à me renseigner, à voir avec les gens, avec d'autres sportifs à la salle ou autour de moi, est-ce que ça les intéresserait. Et effectivement, ça les intéressait. Ils disaient effectivement qu'il n'y avait pas d'alternative en fait aux produits un peu chimiques. Donc, ils étaient plutôt motivés.
C'est comme
motivés,
ça que
tu as
un peu pris la température de ton marché, dans ta salle directement.
C'est ça.
Ce qui en soi est une très bonne option.
Dans l'entourage, il y a toujours des sportifs, des gens qui courent.
Ok. Et les gens, ça, on va l'apprendre à personne, ils sont aujourd'hui de plus en plus friands de produits locaux avec plein de valeurs sur l'environnement, la santé, etc.
Ouais,
les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Alors pour leur santé perso, mais aussi pour la santé de l'environnement, ça c'est véridique.
Oui. Ouais.
Ça c'est vrai, ça c'est vraiment véridique. Alors maintenant qu'on a compris un peu le business, d'où ça vient, ton parcours, etc. Donc toi, est-ce que tu peux me dire comment tu vends les produits? Donc c'est sur un site internet. Est-ce que tu peux me donner le site internet?
Effectivement, donc je vends sur www.goodcubeparis.fr. Donc sur le site internet. Et on livre partout en France et même dans le monde. Vu que les produits tiennent un mois, on peut les envoyer facilement. Et puis, ils ne sont pas des produits frais. Ce sont des brownies, des cookies, des bars, bientôt des muffins. Ce ne sont pas des produits frais, donc il n'y a pas toute cette partie de chaîne du froid à respecter. Okay.
Parce que là, ça rajoute énormément de contraintes dans le transport, la législation, etc. Là, c'est mortel.
Ouais. Tout de suite, j'ai vu qu'il ne fallait pas aller de ce côté-là, que c'était vraiment trop de difficultés. Il y en a déjà bien assez avec l'alimentation sèche.
Alors, maintenant, tu nous as dit que tu vendais et que tu avais un site web. Moi, ma question, parce que ça vient dans la constitution du projet, c'est un élément essentiel. Bah, on le voit, que ce soit pour une entreprise tech comme Coding Days ou Glim ou encore plein d'autres. Bah, toi, pâtisserie, pas pâtisserie, il te faut un site. Il faut que tu sois présente digitalement et que tu puisses distribuer les produits. Alors, comment le site, il s'est fait? Bon, toi, tu ne me l'as pas dit, j'ai rien vu là-dessus, mais je pense que tu n'as pas de compétences web particulières. Donc, moi, j'ai envie de te poser la question maintenant. Comment tu as propulsé, comment tu as mis en ligne ton site, comment tu l'as créé?
Alors, le site internet, j'ai demandé des devis, etc. autour de moi pour des sites. C'était un investissement trop important pour un début, pour tester le marché, etc. Je me disais, voilà, pour l'instant, je teste le marché, je vais voir comment ça se passe. Donc je me suis dit bon bah, je vais aller voir sur les sites genre Shopify pour faire moi-même comment ça se présentait. Au final ce sont des outils qui sont hyper bien faits et donc j'ai fait mon site internet moi-même au final.
Ok, parce que comme tu l'as dit, ouais, aujourd'hui que ce soit les freelances en développement web ou même les agences qui font du très bon travail,
ouais,
c'est vrai que c'est un investissement de plusieurs milliers d'euros, ouais, des fois même en dizaines de milliers d'euros, donc c'est vrai que pour quelqu'un qui même à du budget n'a pas forcément envie de consacrer la moitié ou le tiers ou plus que ça du budget dans un développement web, sachant qu'aujourd'hui voilà, il y a des logiciels en ligne comme Shopify et comme plein d'autres qui permettent de propulser automatiquement, et surtout ils permettent de propulser un site marchand en fait,
oui,
directement.
Ouais.
C'est là où c'est encore plus intéressant.
Ouais, il y a l'outil pour le paiement qui est déjà intégré. Enfin, il y a vraiment tout est hyper bien fait et il y a juste de la mise en page à faire.
Voilà. En fait, c'est un peu du drag and drop. Alors, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, bon, ça reste cordial par rapport à du développement à la mano, mais c'est quand même voilà, du travail de concept, d'esthétisme, ouais, d'ergonomie sur le site. Moi, j'ai une question, parce que moi, je n'ai jamais rien proposé par Shopify, même si je connais un peu le service. Pour les paiements, comment ça se passe? Est-ce que c'est Stripe qui gère tout ou alors c'est Shopify en interne qui a un service pour le paiement?
En fait, Shopify propose plusieurs prestataires pour les paiements. Moi, j'ai choisi Stripe.
Okay, ok.
Et du coup, qui est directement intégré.
J'ai dit au hasard, parce que Stripe, c'est le plus connu,
bah voilà,
même dans les startups tech.
Et donc, au final, j'avais juste à le cocher, quoi. Et puis, voilà, il était intégré.
D'accord.
Quoi.
Bon, Stripe, c'est le plus connu, pas pour rien. Bon, dans le cas de Shopify, c'est intégré directement en 10 clics. Mais aussi, c'est le plus connu et le plus pratique parce que leur API, donc pour les développeurs, est très, très simplifié, très, très pratique. C'est facilement mettable. Je ne sais pas si ça se dit. C'est vraiment facilement mettable en place. Grâce à leur API, leur documentation qui est très bien faite par rapport aux autres moyens de paiement. Donc Stripe, ouais, c'est vraiment le top. Donc du coup, le site, on a compris. Toi, ta communication, alors, elle se passe sur Instagram.
Oui.
Alors, à 100% ou pas?
Quasiment.
D'accord.
Quasiment,
et donc, sous quelle
Facebook
forme?
Alors, des photos. En fait, j'ai pris quelqu'un quand même pour m'aider sur la communication parce que c'est vraiment pas mon métier. C'est un savoir.
D'accord. Et le rôle de cette personne, c'est photographe?
Je le prends. Alors, c'est une personne qui est un peu touche à tout dans la communication. Donc, au final, elle a fait les photos pour le site internet et pour Instagram. Elle s'occupe d'animer les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et voilà, elle m'a aidée sur faire des flyers, faire... des choses comme ça, un peu graphiques, les étiquettes, on a travaillé dessus ensemble.
Okay.
Voilà, sur tout ce qui est design, etc. Elle m'a aidé là-dessus.
D'accord, vas-y.
Et donc, en fait, on a lancé l'Instagram et le Facebook début août, donc bien en amont du lancement du site, histoire d'avoir déjà un réseau, d'avoir déjà des followers.
De ne pas arriver dans le bain tout nu, quoi.
Ouais, c'est ça, d'exister déjà au lancement du site internet.
Ok, et alors, j'y avais pas pensé, mais du coup, de l'autre côté que cette com digitale, tu m'as parlé de flyers, etc. Ça veut dire quoi? Que tu es allé chercher, que tu es allé démarcher, enfin, pas démarcher, mais que tu es allé montrer ce que tu faisais ou aux gens autour de toi, aux différents commerces, aux différents artisans, producteurs?
Aux salles de sport, en fait. Parce que l'autre moyen de vente que je voudrais développer, c'est dans les salles de sport. Parce que on touche directement le client. Et donc, du coup, j'ai déjà démarché pas beaucoup de salles de sport parce que j'ai pas trop eu le temps, parce que je suis toute seule. Donc,
c'est un canal super intéressant, in fine, les salles de sport, parce que l'intermédiaire, c'est la salle de sport.
C'est ça.
Et puis, ça touche directement la cible. Alors là, pour le coup. Et donc, en fait, toi, donc tu vends sur le site, tu distribues, etc. sur le site. Mais donc, sinon, à part, donc là, tu viens de me dire, tes canaux, c'est le site, les salles de sport que tu vas. Donc, ça, c'est un peu plus une projection, mais tu y penses sérieusement.
Il y en a qui sont intéressés déjà, et donc je les vois cette semaine pour organiser ça.
Et il y a quoi d'autre comme canaux, en fait
ça, pour l'instant, c'est tout. Je réfléchis, pourquoi pas, quand j'aurai des plus grosses productions, au magasin bio, les réseaux Bio C'est Bon, Naturalia, etc. Parce qu'il y a toujours des bars, des collations, mais au final, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon nutritionnellement. Du coup, là, on aura, c'est bon nutritionnellement, et ce sera disponible dans des magasins bio.
Tout step.
Ok, donc ta com, elle se fait avec un prestataire. Le site, tu t'es débrouillé avec Shopify. Et puis sinon, tout se passe sur Instagram. Est-ce que Pinterest, c'est intéressant pour toi?
Alors, je ne me suis pas trop penchée sur la question. Je ne sais pas encore. Honnêtement, je me dis, j'ai des photos qui sont belles. Ouais. Autant les mettre sur Pinterest.
Ça peut être un canal d'acquisition.
Je ne sais pas si vraiment les gens vont dessus pour acheter, en fait. Il voit les photos, ok, ça a l'air joli. Je sais pas encore, j'ai pas encore d'opinion là-dessus.
Et sur Insta, sur Instagram, est-ce que sur tes photos, il y a directement un lien qui mène à ta boutique ou pour ça, il faut avoir 10 000 followers? C'est une fonctionnalité qui se débloque au bout de 10 000 followers, je crois.
Eh bien.
Alors, est-ce qu'actuellement c'est le cas? Est-ce qu'actuellement, si je vais sur ton profil Instagram, sur Good Cube Paris, si je clique sur une photo, est-ce qu'il y a un lien marchant?
Non. Parce il est dans la bio du groupe.
Parce que c'est une fonctionnalité Insta, du coup. Alors, il faut avoir 10 000 ou 1000 followers, je sais plus. Mais c'est à partir de ce moment-là que tu peux directement mettre un... En fait, c'est là où il y aura la petite étiquette, vois, sur chaque photo. Truc de plusieurs photos dans une publication, mais là, c'est vraiment la petite étiquette marchande. Et ça, c'est une fonctionnalité qui se débloque au bout de plusieurs milliers de followers. Ouais. Et donc ça, du coup, surtout pour ce type d'activité, c'est super intéressant.
Oui. Ouais, ouais.
Parce que les gens, ils naviguent sur la photo, il suffit qu'ils aient un petit peu faim ou quoi, bim bim, et voilà, c'est fini.
Ils arrivent directement
sur
le site.
Archi compulsif.
Oui, ouais, tout à fait.
Alors, donc tu m'as dit que tu avais un prestataire. Alors maintenant, moi, j'ai envie de te demander, donc on va parler un peu de la team, comme je le fais pour toutes les entreprises. Tu es toute seule dans la vie de tous les jours, donc non, tu viens de me répondre. Pour le site, oui, maintenant. Pour la maintenance, c'est toi, tout sur Shopify, ça bouge tellement. Mais alors pour les photos, donc tu n'es pas solo. Mais sinon, comment ça se passe? Est-ce que tu as des associés? Comment ça se passe?
Pas du tout. Je suis toute seule sur le projet. En gros, l'idée m'est venue. J'étais toute seule à avoir cette idée. Il faut trouver quelqu'un qui soit disponible en même temps, qui ait les mêmes envies, qu'on soit complémentaires. Ça fait trop de paramètres.
Ouais.
Donc, j'ai pas cherché au final de...
Tout seul
Ouais, j'ai pas cherché d'associé. Je me suis dit que j'allais me débrouiller.
De toute façon, il faut pas...
J'allais me débrouiller.
Bon, c'est pas un mythe, c'est toujours mieux, entre parenthèses, d'être accompagné. Mais c'est pas pour autant que c'est obligé. Le but, c'est de sentir bien que chacun ait son rôle, chacun ait ses tâches et que ça puisse tourner optimalement, en fait.
Ouais. Mais par contre, voilà, il faut se former. J'ai suivi une formation pendant un mois sur l'entrepreneuriat, sur tous les aspects du business plan, chez Créactif.
Ok.
C'est un organisme de formation qui est spécialisé sur la création d'entreprises.
C'est CRE apostrophe actif.
Créactif, tout attaché.
Ok, d'accord.
Au pluriel.
D'accord.
Et ils sont top. Ils sont géniaux. Les profs sont des intervenants qui ont créé leur entreprise. Ils ont soit une entreprise pour gérer les réseaux sociaux, ils sont consultants en marketing, c'est vraiment des gens qui sont entrepreneurs, ils savent de quoi ils parlent Et du coup, on a eu une formation voilà, sur tous les aspects du business plan.
Ok, du coup, tu t'es quand même formé en amont ouais. un peu là-dessus.
Oui, parce que bah, on se rend compte que quand même, on n'a pas tous les outils. Tous les outils bah, pour ce métier quoi.
Donc même toi tu as fait un peu de finance, un peu beaucoup même voilà, il y a quand même des parties d'ombre que tu avais envie d'éclairer.
Ouais et ça a été vraiment utile, j'ai appris beaucoup de choses, en plus ça met en relation plein de gens parce que bah, y avait des entrepreneurs à cette formation et puis en plus même après la formation Créactive continue à te suivre, tu peux leur envoyer ton business plan fini, on en rediscute. Et puis là, au mois de novembre, au final, j'y retourne pour une semaine pour suivre une formation de technique de vente. Parce que vendre, c'est quand même un métier aussi. Donc, je n'ai pas tous les outils pour ça.
Okay.
Donc, j'y retourne. Donc, voilà, il faut savoir s'entourer et puis demander de l'aide aussi autour de soi à tous les entrepreneurs qu'on rencontre. C'est hyper important, c'est hyper motivant. Dans les coups de mou, il y en a vraiment besoin. Quand on se pose des questions, au final, on en parle autour d'un café. Et c'est bon, on a la réponse. Enfin,
tu l'as dit, s'entourer, le réseau, même si c'est des gens qui ne sont pas dans le même secteur, marché, activité que nous, on s'en fiche. Alors maintenant, moi, ma question, avant de finir un petit peu, c'est, bon, tu l'as dit, les produits, ton produit Market Fit, tu es allé le chercher dans la conception, etc. Mais, alors par exemple, quand on fait des bracelets, ben, on va chercher à avoir des poignées test pour voir un peu la tenue du bracelet, etc. Et quand on fait des gâteaux, est-ce que tu as eu un panel en fait de testeurs, bon pour différentes startups on va parler de bêta testeurs ou d'early adopters, mais toi est-ce que tu as eu des bouches à nourrir test en fait?
Oui, alors ça y est, on n'a pas de mal à en trouver hein. Ça dès qu'on parle du projet, ah bah si tu veux je peux tester.
Ok.
Ça y a pas de souci. Mais du coup bah, dans mon réseau de sportifs évidemment ils ont goûté, je leur ai parlé du projet. Ils ont été bêta testeurs.
Mais du coup, sur le. Alors, pas le long terme, mais est-ce que voilà, tu leur as donné la première version du gâteau? Tiens, goûte, dis-moi comment c'est sur le palais, sur la langue, je sais pas tout ce qu'un gâteau doit faire avant de faire les besoins nutritionnels, parce que le goût, c'est quand même super important.
Oui, alors ça a été les deux en même temps. Au final, j'ai d'abord fait les gâteaux, je les ai goûtés moi-même. Je suis assez dure et assez critique sur le goût.
Mmh.
Ensuite, j'ai vu avec la nutritionniste tous les apports des recettes, ce qu'il valait mieux utiliser comme si c'était du sucre de coco, du sucre roux, sirop d'agave, sirop d'érable, etc. Et ensuite, les versions finales, je les ai testées auprès de sportifs, mais aussi de non-sportifs, parce que Fit Life, ça s'adresse aussi aux non-sportifs, ceux qui aiment juste manger sainement. Et du coup bah voilà, autour de moi j'ai eu beaucoup de retours très objectifs, c'était le but, je faisais tester que les gens très objectifs et très francs
qui n'étaient pas là pour manger
et pour me faire plaisir quoi.
Okay.
Et voilà, et du coup bah, au final j'ai même supprimé une recette, j'en ai supprimé une hier du site internet parce que elle me convenait pas en goût, j'étais pas sûre, au final j'ai fait tester encore d'autres personnes et non ça va pas, donc je préfère retirer.
Ok, tu peaufines tes gammes, tu gardes vraiment que ce qui te plaît toi.
Ouais.
Ok, bah c'est top. Alors moi en question bonus à la fin que j'aime bien poser aux entrepreneurs, c'est bon, on va s'adapter du coup, c'est moi je leur demande s'ils font de la veille, ce qu'ils ont mis en place. Alors toi du coup, bon, tu vas pas, alors si quand même, bon on parle de veille concurrentielle, de veille sectorielle, toi qu'est-ce que tu regardes? Alors aujourd'hui tes concurrents ça va être quoi? Est-ce que, bon toi tes concurrents tout ce qui est indirect, voilà ça peut être le supermarché, ça peut être les boulangeries, ça peut être les pâtisseries, ça peut être toute autre personne qui fait un peu la même démarche que toi, mais comment tu surveilles tout ça? Est-ce que tu regardes ce qui se fait en termes de tendance sur Instagram? Comment tu surveilles tout ça?
Alors en fait j'ai pas de concurrent direct. Des gens qui font exactement la même chose pour sportifs, développé avec une nutritionniste, produits sains, bio, et tout ça éco-responsable, il n'y en a pas. Donc mes concurrents, ça va être les sites internet pour sportifs, donc genre MyProtein, Body and Fit, des choses comme ça, donc des sites qui sont quand même pas hyper accessibles au grand public. Qui sont hyper masculins, voilà, c'est pas très, et puis surtout avec des produits hyper chimiques, Donc ça, ce sont mes... je les suis sur, Instagram. Je suis abonnée aux newsletters. C'est comme ça que je vois voilà, un peu ce qu'ils font. Ils font beaucoup de promos, tout le temps des moins 40%. Donc on se demande quelle est leur marge. voilà. Ensuite, effectivement, c'est tout ce qui est bar, collation qu'il y a dans les magasins bio. Mais comme on le voit maintenant de plus en plus, ce qui est bio n'est pas toujours bon pour la santé au final, niveau nutritionnel. Donc là, voilà, j'ai la garantie, j'ai le crédit de la nutritionniste. Donc après, ce qui est niveau pâtisserie, niveau tendance, ça va être sur Instagram énormément. C'est là-dessus que je fais ma veille. Et puis j'ai quand même, j'utilise c'est Google, je sais plus quel outil de Google.
Pour avoir les directement dans tes mails, un peu tous les mots-clés, les articles par rapport
c'est
à...
ça.
Alors comment ça s'appelle ?
Je sais plus comment ça s'appelle.
moi aussi je l'ai utilisé. J'ai plus le nom. Mais voilà, Google permet de faire un peu de la veille. Vous tapez Google veille sur internet, il y a tout qui sort.
Voilà, et toutes les semaines je reçois les articles de la presse, etc. qui sont sur Google avec les mots-clés qui m'intéressent. Et puis, je vois ce qui se passe, s'il y a des nouvelles marques, des nouvelles gammes qui se lancent, choses comme ça.
Alors, avant de te demander ton avis sur l'entrepreneuriat par rapport à ta position initiale, est-ce que tu peux me dire toutes les difficultés qui ont été pour toi ? Vraiment. Alors, donc, le projet, maintenant, on l'a compris, on sait ce que tu fais, on sait ce que tu vends, on sait comment tu l'as mis en place. Maintenant, est-ce que tu peux retracer, rapidement ou pas rapidement, tout ce qui est venu te mettre des barrières depuis le début jusqu'à maintenant ?
Alors, bah la première difficulté, ça a été de savoir où travailler. Au final, j'ai cherché un espace de coworking. Et puis, je me suis rendu compte que les espaces de coworking, c'était 4 ou 5 euros de l'heure. Bah, quand on travaille 8 à 10 heures par jour, il faut avoir un sacré budget. Travailler de la maison, c'était pas possible parce qu'on tourne fou. Donc, au final, j'ai atterri à la permanence, qui est un espace de coworking qui est à 1 euro de l'heure. Et il y a plusieurs espaces à l'intérieur. Et il y a un espace où on peut discuter, qui n'est pas silencieux. Et au final, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et ils viennent tous les jours. Donc au final, on commence à se faire un réseau. On commence à discuter. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Je voulais vraiment rencontrer du monde. Il y a aussi les salons. Salon de l'entrepreneuriat, tous les salons qui existent.
Là, il y en a un, ouais.
Bientôt. Il y en a eu un, c'était ce week-end, je crois.
Il y a eu Salon SME.
Oui, voilà.
Le 30 et le 1.
C'est ça.
Il y a un salon de l'entrepreneuriat très bientôt, le mois prochain, et il y en a un tous les ans en février.
Oui, c'est ça. Donc, je suis allée à celui de février. C'est hyper intéressant parce que il y a des conférences, c'est motivant, c'est inspirant. Et il y a aussi tout ce qui est pratique. La sécu pour les entrepreneurs, des choses comme ça, hyper administratives.
Tout ce qui est statut juridique, toi aujourd'hui tu t'es lancé sous quel statut ?
Alors pour l'instant je suis auto-entrepreneur,
okay.
Vu que j'ai le chômage, c'était auto-entrepreneur.
Il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte.
C'est assez compliqué de se retrouver dans toute cette jungle, donc je suis allée chercher de l'info chez Pôle emploi, dans les salons aussi beaucoup. Et puis au mois de janvier, je change de statut et là je vais vraiment créer une vraie entreprise. Mais donc déjà oui, avoir des informations fiables, c'est aller chez Pôle emploi, c'est aller dans les salons, aller voir la sécu, choses comme ça. C'était assez dur de trouver des infos.
Ok, écoute, et maintenant ton avis sur l'entrepreneuriat par rapport à la Anne-Laure qui travaillait dans la finance, qui avait peut-être des préjugés, des avis, un ressenti, des a priori. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de ton aventure et puis de l'entrepreneuriat en général ?
Alors, déjà, je suis hyper contente d'avoir sauté le pas, parce que c'est une vraie réalisation, en fait. Enfin, on est vraiment fiers quand on arrive à lancer quelque chose. Et ça, on ne l'a pas en tant que salarié, cette fierté d'avoir accompli quelque chose. C'est moins tranquille, c'est sûr, que d'être salarié. Nos week-ends, parfois, enfin, c'est pas qu'on travaille tout le temps, mais c'est qu'on y pense tout le temps. Et au final, on déconnecte jamais. C'est même en vacances, on y pense, ah tiens, si je faisais telle gamme, ah, bah, tiens, ça c'est un bon packaging, je vais le prendre en photo. On y pense tout le temps, jamais on déconnecte. Mais en même temps, je n'ai jamais eu l'impression de travailler pendant cette année. C'est, je me lève le matin, je vais à la pâtisserie, je vais au coworking. J'ai envie de me mettre sur mon ordi, de commencer à bosser, de tester des recettes. C'est vraiment... Et parfois même, j'ai culpabilisé. Hein, je touchais mon chômage, je me disais, oh là là, je me la coule douce. J'ai pas l'impression de bosser. Non, en fait... Il faut des gens autour de soi pour dire non, au final, tu bosses même plus. Je fais parfois des plus grosses journées, sauf que ça passe hyper rapidement et puis et c'est passionnant et on rencontre plein de monde. C'est hyper enrichissant. Vraiment, c'est quelque chose à faire, quoi.
C'est... Ok, écoute, je te remercie. Est-ce que tu peux me dire du coup où on peut te retrouver ainsi que surtout Good Cube Paris? Voilà, le site, Instagram, est-ce que tu peux tout me dire?
Ben voilà, sur le site internet, www.goodcubeparis.fr, également sur l'Instagram, goodcubeparis. On a aussi un groupe Facebook où on poste régulièrement. Et puis, bientôt dans des salles de sport, parce que plusieurs salles sont intéressées. Donc,
à Paris?
À Paris, tout à fait. Donc bientôt dans les salles de sport.
Ok, écoutez, Anne-Laure, je te remercie en tout cas de m'accueillir ici, 88 rue de Didot, j'ai failli redire Diderot, de Didot dans le 14e. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage passionné d'entrepreneuriat ou même tous les entrepreneurs que vous connaissez ou si vous-même vous êtes entrepreneur, à le relayer. À nous suivre sur Facebook et sur YouTube, donc Two Step. À suivre bien sûr Anne-Laure avec Good Cube Paris partout où elle vient de vous dire sur Instagram et d'aller voir ses pâtisseries en photo sur son site qui sont vraiment alléchantes. À suivre son activité et à suivre le développement. Merci en tout cas à toi Anne-Laure de m'avoir accueilli ici et à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous remercie, à bientôt.